Que penser de la décision prise hier à Bruxelles pour tenter de définir les perturbateurs endocriniens? Si l'on en croit Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, c'est une avancée importante, même si, dit-il, le texte n'est pas parfait. La Commission européenne, elle, se félicite d'une étape décisive pour, je cite, une meilleure protection des citoyens contre les substances nocives. À l'inverse, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, dénonce une définition inacceptable. Pour elle, les lobbies de la chimie ont dû sabler le champagne. Alors, pour tenter d'y voir un peu plus clair, on s'y arrête ce soir au téléphone sonne, car dans ce domaine, peut-être plus que dans d'autres encore, le diable se cache dans les détails et ce n'est pas toujours simple. Pour en parler avec nous, notre consoeur Stéphane Aurel, qui travaille sur la question depuis des années. Bonsoir Stéphane Aurel.
Bonsoir.
Journaliste pour Le Monde, mais pas que. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Intoxication, c'est aux éditions La Découverte. Avec nous également dans ce studio, le docteur Patrick Lévy. Bonsoir.
Bonsoir.
Médecin conseil de l'Union des industries chimiques. Et également en duplex du Parlement européen de Strasbourg, l'eurodéputé vert Pascal Durand. Êtes-vous là, Pascal Durand ?
Mais je suis bien là, bonsoir.
Bonsoir à vous. Pour interroger nos invités de solutions, Laura Loulet-Cris, c'est comme au bac. À l'écrit, c'est franceinter.fr ou Twitter avec le mot dièse Stelson. À l'oral, c'est 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Lyon. C'est Rémi qui est au bout du fil. Rémi, bonsoir, bienvenue à vous.
Bonsoir, merci. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai cru lire dans la presse aujourd'hui en fait que la définition qui avait été choisie par la Commission européenne pour les perturbateurs endocriniens en fait excluait les produits qui avaient été spécifiquement été conçus comme perturbateurs endocriniens, ce qui me sidère complètement. Si j'ai effectivement bien compris et si c'est le cas, j'aimerais savoir comment la Commission européenne espère encore avoir un minimum de crédibilité auprès de la population et ne pas passer pour une vendue totale aux industries chimiques.
Merci. Merci Rémi pour cet appel. Il y a eu quelques petites coupures de liaison, mais je pense qu'on a à peu près compris ce que vous vouliez nous dire. Stéphane Aurel, ce que nous dit Rémi, c'est vrai ?
C'est tout à fait exact. En novembre-décembre, la Commission européenne a ajouté tombé de nulle part, un ultime paragraphe à sa proposition de critères qui a été ajouté à la demande de l'Allemagne. Et on a raconté dans le journal Le Monde que c'était une demande qui avait été développée par les industriels allemands des pesticides, Bayer et BASF, mais aussi Syngenta en Suisse, et qui... C'est vrai que c'est très difficile en fait à comprendre et je comprends que Rémi soit un petit peu étonné de ça. C'est une exemption pour les pesticides dont le mode d'action est conçu pour agir sur le système endocrinien. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait que ces pesticides sont des perturbateurs endocriniens, alors que justement le règlement est prévu pour les retirer du marché, eh bien on va les garder.
Est-ce qu'on peut juste revenir sur ce qu'a décidé hier Bruxelles? Et d'abord, qui a dit quoi? C'est quoi? C'est un comité d'experts qui s'est prononcé?
Alors, c'est un comité où sont représentés...
Chaque pays.
Envoyés des représentants des États membres. Donc, c'est pas la Commission européenne qui a décidé, c'est chaque État membre qui a décidé en son âme et conscience et en fonction de ses orientations politiques d'adopter, de voter pour ou contre ces critères qui définissent scientifiquement ce que sont les perturbateurs endocriniens afin de pouvoir appliquer en fait un règlement sur les pesticides qui a été voté en 2009 déjà.
Est-ce que vous pourriez nous dire donc en deux mots quelle est la définition qui a été retenue hier par ce comité à Bruxelles?
Il n'y a pas vraiment de définition en tant que telle en fait.
Donc c'est, en fait on tourne autour du pot quoi.
C'est-à-dire que les questions les plus importantes n'ont pas été réglées par ce texte, tout ce qu'on peut, comment, et puis il est très compliqué. C'est pas un texte accessible au commun des mortels, mais ce qu'on peut dire, c'est que le degré d'exigence pour désigner une substance chimique comme perturbateur endocrinien est extrêmement élevé. C'est ce que la communauté scientifique dénonce depuis plusieurs mois, parce que la Commission européenne demande à ce qu'il y ait un effet démontré avec
un effet de nuisance,
un effet nocif qui passe par le système endocrinien. C'est-à-dire qu'on doit, alors qu'aujourd'hui on n'est pas capable de dire très très précisément comment par exemple fumer provoque le cancer du poumon. D'un point de vue mécanique, biologique, on peut pas vous faire un schéma extrêmement précis. La Commission quelque part exige ça pour les perturbateurs endocriniens.
Docteur Patrick Lévy, sur la décision qui a été prise hier à Bruxelles, vous qui représentez l'industrie chimique, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été décidé ou pas?
Alors, on a franchi un pas significatif. Mais il reste un certain nombre d'étapes à franchir. Tout n'y est pas dans cette définition. Je rappelle que l'industrie chimique souhaitait une définition basée sur l'évaluation des risques. Pour mémoire, on a des propriétés de danger, des perturbateurs endocriniens, qui sont des propriétés intrinsèques, qui peuvent se manifester sous la forme d'effets sur la santé ou sur l'environnement dès lors qu'il y a exposition. Vous avez un flacon d'eau de Javel dans votre armoire, vous ne l'ouvrez pas, vous n'avez pas d'exposition, vous ne risquez pas d'avoir d'effet sur la santé. C'est la même chose pour toutes les substances chimiques. Si ce principe d'évaluation des risques n'est pas respecté, on a un problème parce qu'on risque de bannir des substances qui peuvent être utiles. Cette définition, hélas, elle ne reprend pas ce critère d'évaluation des risques, donc elle n'est basée que sur des propriétés intrinsèques. Alors, elle précise la définition, elle est assez précise par rapport à
vous
ça.
Vous dites quand même qu'il y a un premier pas.
Il y a un
vous
premier pas,
Nicolas
en ce
Hulot.
Sens qu'on est dans une dynamique aujourd'hui. On n'est plus dans une période de blocage, dont on ne sortait pas, on change de dynamique, et pour nous c'est important, ça nous donne un peu plus de visibilité pour aborder les prochaines étapes. C'est ça qui compte, de se mettre dans une dynamique de progrès.
Pascal Durand, à Strasbourg.
Oui.
Un premier pas, c'est un premier pas pour vous ou pas? Après, ce qui a été décidé hier.
Ça pourrait être un
ou
pas.
C'est un recul.
Pas. Non, c'est peut pas y avoir de recul puisqu'il
y avait
dans
rien.
Une situation de blocage. Voilà. Donc on l'a très bien expliqué tout à l'heure. Il y avait un règlement de 2009 où l'on devait définir, c'est-à-dire qu'on avait adopté le principe de l'interdiction des perturbateurs endocriniens parce que on est quand même en train de parler et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être le repréciser. Mais le perturbateur endocrinien, ça a des effets extrêmement graves sur le placenta, ça passe sur les bébés, ça a des vocations à pouvoir perturber les systèmes donc endocriniens, hormonaux. Donc on est dans une substance qui est extrêmement dangereuse pour la santé, aussi bien des bébés que des femmes enceintes. Et donc c'est un problème de santé publique majeur. On n'arrivait pas à se mettre d'accord effectivement sur une définition. Mais ce que disait Stéphane Aurel tout à l'heure est très important, c'est que l'industrie chimique, à travers d'ailleurs la représentation allemande, qui a là, en l'occurrence, défendu les intérêts de son industrie, notamment de Bayer et de BASF, plutôt que l'intérêt général des citoyens européens. Donc on a eu l'introduction d'exemption. Et surtout, on a un combat qui était mené par la France et qui malheureusement n'a pas trouvé de majorité. C'est évidemment ce qu'il faut regretter très très largement. C'est qu'on essayait de faire en sorte de garder les catégories qui sont les catégories traditionnelles en Europe, par exemple sur les produits cancérogènes, qui est la partie avérée, la partie présumée et la partie suspectée. Ce qui était très important, c'était de maintenir cette classification tripartite, qui est la classification généralement retenue. Et là, nous avons un recul par rapport à cette définition générale, parce que nous n'avons que les éléments avérés et présumés. Donc, on a là, évidemment, une difficulté. La situation était une situation de blocage. Elle est donc maintenant effectivement débloquée. Malheureusement, nous avons eu là un effet très, très évident du lobby de la chimie et des conséquences qui vont être extrêmement graves, en tout cas néfastes, pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens européens.
Alors on va poursuivre la réflexion avec Virginie qui nous appelle de Chambéry, qui nous demande justement pourquoi ça s'est produit. C'est ça Virginie, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors j'entendais votre invité là, je suis sidérée d'entendre ce que dit ce monsieur parce qu'il dit que c'est une avancée et qu'en même temps c'est un recul. Donc on reste finalement dans une sorte de statu quo et c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire les populations. Moi je suis scandalisée. La question, ma question de départ, mais c'est vrai que la réflexion évolue en vous écoutant, c'est pourquoi la France simplement n'a pas tenu tête à l'Allemagne, connaissant parfaitement l'industrie chimique allemande, BASF et consorts, et de quoi la France a eu peur. Sur quel autre dossier, j'allais dire, la France a-t-elle besoin de l'Allemagne pour avancer? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours un doute. Quand il y a des votes comme ça, au niveau européen, il y a toujours un doute pour savoir quelles sont les collusions. Alors je vais faire un parallèle idiot, mais c'est comme quand on voit l'Eurovision, il y a un vote d'un pays pour un autre, on dit « ah bah c'est comme d'habitude, ils votent », etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que la France a pris une position, c'est un dédit par rapport à ce qu'elle avait promis entre guillemets moralement à la Suède ou au Danemark. Et là, et là, au dernier moment, ah ben non, du coup, on va pas voter ce qui avait été convenu. Enfin, je veux dire, après, on dit que la planète, on doit faire la planète great again, et je ne vise personne. Et voilà ce qu'on entend à l'Europe. Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans l'Europe avec des votes pareils? Oui, effectivement, faut être dur quand on interdit quelque chose, faut l'interdire. Je veux dire, on se bat tous les jours, les Français qui font un effort, et c'est mon cas, d'acheter du bio pour que ça aille mieux. Et au niveau européen, ceux qui ont un vrai pouvoir, j'allais dire, sur la santé des gens, voilà ce qu'ils votent. Moi, je me sens trahie par mon propre pays.
Merci mille fois, Virginie, pour cet appel. Alors, je ne sais pas s'il faut comparer ça avec l'Eurovision, Stéphane Aurel, mais vous qui connaissez très bien le fonctionnement de l'Union européenne, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la France, jusqu'à très récemment, n'avait pas du tout cette position. Elle a changé son fusil d'épaule.
Absolument. Je vais peut-être faire une autre métaphore pour se trancher sur cette question de est-ce que c'est une avancée ou un recul. C'est peut-être plutôt un moonwalk à la Michael Jackson. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a avancé, mais en fait, on a reculé.
C'est situation, du tango, un peu en avant, deux pas en arrière.
C'est une sorte d'illusionnisme. Le fait est que ce qu'on appelle le blocage, c'était que des États membres, dont la France, qui était l'État membre qui avait le plus de poids en termes de points de vote, de voix, refusait le texte de la Commission européenne qui avait été proposé à l'origine le 15 juin 2016 parce qu'il était, à son avis, et selon l'avis des ONG et de la communauté scientifique, largement insuffisant pour remplir la mission qui était de protéger la santé publique et l'environnement.
Alors ça, c'était, vous dites, le 15 juin, il y avait déjà Nicolas Hulot au ministère...
15 juin 2016.
Ah, c'est-à-dire c'était l'année d'avant.
Pendant plus d'un an, Ségolène Royal a tenu bon avec les alliés qui étaient le Danemark et la Suède. Faut dire aussi que ce sont des pays... La France a suivi la Suède qui a porté plainte contre la Commission européenne parce qu'elle n'avait pas respecté les délais réglementaires fixés par la loi. La Commission devait définir scientifiquement les perturbateurs endocriniens avant décembre 2013. Suite au lobbying de l'industrie, le processus avait déraillé. Et c'est pour cette raison qu'on s'est retrouvé dans cette situation aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, d'après vous? Pourquoi est-ce que Nicolas Hulot, aujourd'hui, nous dit... Alors, lui, il dit, c'est un moindre mal, c'est mieux que rien. Voilà, c'est ça son raisonnement. Vous le comprenez?
Moi personnellement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du ministre de l'Environnement, et je ne comprends pas en fait les affirmations selon lesquelles c'est une avancée et que la France a obtenu un certain nombre de garanties en échange de ce vote, parce que si on prend la liste de ces garanties, en fait, c'est des points qui existaient déjà auparavant. Le point principal, c'est la France dit, Nicolas Hulot dit, on a obtenu que les perturbateurs endocriniens suspectés soient réglementés. Sauf que ce point-là, non seulement il existait déjà avant qu'il soit nommé ministre, mais il n'est pas du tout inclus dans les articles réglementaires. Il est juste dans le texte introductif, donc il n'a absolument aucune valeur juridique.
Pascal Durand, à Strasbourg, vous comprenez, vous, ce qui s'est passé dans la position française, là, en l'espace de trois semaines?
C'est très difficile, mais je voudrais quand même rebondir juste un tout petit peu en amont sur ce que votre auditrice a fait remarquer.
Virginie?
Virginie. L'Europe, elle a bon dos, en l'occurrence. Il se trouve que l'Europe a interdit le principe et les perturbateurs endocriniens. Simplement, après, elle renvoie, parce que ce sont des actes délégués, c'est pas l'Europe qui décide de ça, les États qui doivent se mettre d'accord sur une définition. Je dis bien les États, ça n'est pas l'Europe en tant que telle, puisque la Commission, justement, s'est trouvée en situation de ne pas pouvoir agir sur la question de la mise en œuvre du texte européen, puisque les États n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'est pas pour dire que tout se passe bien au niveau de l'Europe, c'est juste pour essayer de rétablir une vérité, à savoir qu'en l'occurrence, et ça a été dit, c'est l'Allemagne d'abord et avant tout qui a défendu, mais ça, il y avait d'autres États avec elle, mais qui a défendu des intérêts qui étaient des intérêts purement industriels de sa chimie. Donc après, quelle a été la part des négociations? Moi aussi, j'ai bien entendu ce qui a été dit par le ministère, par les ministères, puisque le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture se sont également appuyés sur l'intervention de Nicolas Hulot pour dire qu'il l'a partagé. Moi, j'entends ça. Je ne sais pas ce qui a été négocié. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Aurel sur le fait que les avancées, elles étaient pour l'essentiel déjà là, dans la définition. On n'a pas eu de bouleversement. On a un point qui semble très important pour le ministère de l'écologie, c'est le fait de dire la France va pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de clauses de sauvegarde pour des produits, pour les jouets, etc. Là, on ne parle que des pesticides. J'avoue que j'attends de voir comment ça va avancer. J'entends quand on disait il y a une avancée, c'est tout simplement parce qu'avant on était totalement bloqué. Maintenant, la définition qui a été adoptée, clairement, pour nous, elle ne nous convient pas. J'indique sur un plan procédural que le Parlement européen a un pouvoir d'objection sur cette décision des États, que les écologistes vont mettre en œuvre cette objection, c'est-à-dire que nous allons porter à la commission environnement du Parlement, qui est la commission compétente, une objection, de manière à ce que le Parlement puisse statuer en plénière et rejeter cette définition. Donc ça, je peux vous l'annoncer dès ce soir. Nous n'accepterons pas au Parlement européen, en tout cas en ce qui concerne les écologistes, et j'espère que nous aurons une majorité avec nous, nous n'accepterons pas en l'état cette définition.
Merci Pascal Durand. Docteur Patrick Lévy, vous qui représentez ici l'industrie chimique, on entend bien que il y a eu une certaine influence du secteur en Allemagne. Est-ce que ça fait votre affaire à vous aussi en France? Est-ce que c'est chimiste de tout pays? Unissez-vous.
Il faut rappeler que, comme toute partie prenante, l'industrie chimique développe ses idées. Pour ce qui est de la France, nous les présentons de façon tout à fait transparente et officielle depuis l'établissement de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, donc dès 2014. Nous avons affiché clairement nos positions, notamment le principe d'une évaluation des risques, qui est un principe structurant dans toute réglementation. Donc nous sommes parfaitement clairs et nous interagissons en tant que partie prenante, comme les autres parties prenantes, auprès des décideurs et auprès de l'ensemble des acteurs politiques, le cas échéant. Donc nous jouons notre rôle par rapport à cela en défendant nos idées qui sont fondées sur des principes scientifiques. Nous comprenons parfaitement, ce qui a pu conduire à accepter notamment l'exemption dont il a été question tout à l'heure. Il faut rappeler que les produits phytopharmaceutiques sont destinés à protéger les plantes contre des agressions venant de ravageurs. Donc c'est pour la santé des plantes que l'on utilise ces produits. Cette exemption, elle est extrêmement limitée. Elle ne s'applique qu'au cas par cas, en l'absence de produits de substitution, et dès lors qu'il y a des effets qui sont manifestes sur les plantes. Donc c'est quelque chose qui n'a pas vocation à durer, comme son nom le précise. C'est une exemption au cas par cas, pour des cas très particuliers, en l'absence de solution de substitution.
Alors, on répondra certainement à ça tout à l'heure, Stéphane Aurel, mais je voudrais qu'on prenne deux de nos auditeurs qui nous appellent précisément pour ces questions-là. On a d'abord Olivier, qui est en ligne de Louviers, me semble-t-il. Olivier, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous. Pour quelles raisons avez-vous souhaité intervenir?
Ben j'ai comme je disais votre collègue au standard, j'ai travaillé moi avec des produits dans les produits phytosanitaires, et puis maintenant on s'aperçoit que c'est pas très bon pour l'organisme humain, même si c'était bon pour les plantes, mais malheureusement c'est pour les humains c'est pas très bon. Et puis donc maintenant je voudrais savoir, comme je disais votre collègue, savoir s'il y a un état des lieux de fait auprès des personnes qui ont utilisé qui ont travaillé avec ces produits.
Donc vous vous inquiétez, quoi?
Voilà, tout à fait, parce que j'ai des problèmes de santé actuellement. Est-ce que ça va être là, je ne sais pas. Mais voilà, quoi, c'est inquiétant, quoi, pour les générations à venir, quoi, parce que ça va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est ancré dans la terre.
S'inquiéter. Merci beaucoup Olivier. Géraldine veut nous parler, je pense, du même sujet que vous, et après on va vous répondre à tous les deux. Géraldine, vous êtes là?
Oui, bonjour.
Vous vous inquiétez également pour la santé publique?
Je suis très inquiète, et surtout sur cet effet qu'il y a sur plusieurs générations, que l'on retrouve systématiquement. Je suis une fille d'Istilben, donc c'est une formule chimique à la base. Ma mère, on lui en a prescrit. Moi, le fœtus, malheureusement, j'ai subi les effets du distilbène, et mes enfants n'y ont pas survécu. C'est
c'est qu'un aparté. Mais on retrouve ça, effectivement, quand on va dans les vignes d'où je viens, donc on va dire autour de Bordeaux, il y a les pesticides, on voit effectivement des problèmes de fertilité. J'en voyais quand j'habitais Limoges, effectivement, avec la Golden Royal au niveau des pommes. Et je me dis, mais jusqu'où ça va s'arrêter? On a un ministre de l'écologie, moi je suis désolée, il n'y a pas eu d'avancée, donc il faudra peut-être attendre un autre quinquennat. Or, il y a urgence de faire quelque chose contre les perturbateurs endocriniens. Il y a des victimes.
Un grand merci Géraldine. Stéphane Aurel, on va peut-être à ce stade de l'émission répondre à Géraldine et à Olivier sur les effets justement des perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a quand même consensus chez les scientifiques, en tout cas, sur les dangers que ça représente. Comme vous le dites très bien dans votre livre, ça a pu être à une époque le tabac, l'amiante, il y a eu des alertes.
Absolument, il y a un consensus scientifique sur le fait que ces substances chimiques sont dangereuses. Il y a même une centaine de scientifiques qui sont spécialistes de la question des perturbateurs endocriniens qui ont co-signé dans le monde une tribune avec des scientifiques spécialistes du changement climatique pour alerter les décideurs publics sur les mêmes méthodes d'enfumage et de désinformation des industriels, sur la manipulation de la science, qu'on appelle la manufacture du doute, qui est destinée à retarder en fait la décision publique au détriment de la santé des personnes et de l'environnement. Donc pour répondre plus directement aux questions d'Olivier et Géraldine, il soulève effectivement...
Surtout Olivier qui, après tout, se dit peut-être qu'il faudrait un suivi particulier quand on a été exposé à certains produits.
Mais en fait, il soulève l'un et l'autre deux questions très différentes. Il y a l'exposition à des substances chimiques dangereuses que sont les produits phytosanitaires. Je ne sais pas si Olivier est agriculteur ou travaille dans ce domaine-là et qui a été en contact avec ces substances. Et puis, ce que Géraldine soulève comme problème, c'est l'exposition in utero. Et c'est en fait principalement ça, l'inquiétude avec les perturbateurs endocriniens, c'est l'exposition pendant la grossesse pendant les premiers âges, les premières années de la vie, à des substances qui peuvent interagir avec le système hormonal et donc bouleverser des mécanismes de développement, par exemple développement du cerveau, développement des organes sexuels, et avoir des conséquences à la naissance ou plus tard dans la vie.
Docteur Patrick Lévy, sur les maladies induites par les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'il y a comme type de maladie? Maladie hormonale, cancer?
D'abord, je voudrais dire qu'on ne peut qu'être sensible à l'inquiétude qui est manifestée par vos auditeurs, et on se doit d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Je pense que c'est vraiment très très important de prendre en compte ces attentes sociétales. Il y a, comme l'évoquait l'auditrice, un certain nombre d'effets qui sont démontrés, des effets qui sont tout à fait avérés d'un point de vue scientifique.
Géraldine,
vous évoquez le cas du distilbène, qui est parfaitement démontré et qui est dramatique. Il y a également eu des expositions à des substances organiques persistantes, notamment, pour lesquelles les effets sur la faune sont démontrés, mais qui résultent d'expositions passées à des substances qui aujourd'hui sont interdites. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate une augmentation de l'incidence de certaines pathologies, des cancers hormonodépendants, des malformations congénitales, dont l'incidence, effectivement, progresse. Elle est, pour certaines de ces pathologies, en particulier pour les cancers, liée à l'augmentation de l'âge. Il y a une relation de cause à effet entre l'âge...
Il y a aussi de plus en plus de cancers chez des jeunes et ça
et
doit interroger sur
cela
justement...
Cela étant dit, pour certaines formes de cancer, vous avez raison de le rappeler, l'augmentation de l'incidence n'est pas due seulement à l'augmentation de l'espérance de vie et évoque des facteurs environnementaux. Parmi ceux-ci, il peut y avoir effectivement un rôle joué par les perturbateurs endocriniens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces pathologies sont vraisemblablement multifactorielles. Et que les perturbateurs endocriniens jouent peut-être un rôle, on ne conteste pas, mais aux côtés d'autres facteurs de risque.
Pascal Durand, à Strasbourg, peut-être une réaction à ce que nous avons dit...
Oui, moi je voudrais déjà réagir à ce qui vient d'être dit par le docteur Lévy, parce que c'est stupéfiant d'entendre effectivement un représentant de la chimie venir nous expliquer que il y a eu par exemple le distilbène qui a été interdit et que il y a des substances qui sont désormais avérées dangereuses. Je rappelle quand même que le distilbène, il y a eu des années et des années de procès de mémoire, je crois une quinzaine d'années, qu'il a fallu remonter jusqu'à la Cour de cassation parce que à l'époque c'était UCB Pharma, je crois, le labo pharmaceutique qui expliquait qu'il n'était évidemment responsable de rien. Donc évidemment, une fois qu'un produit a été interdit et qu'il qu'il a fait des ravages, on vient nous expliquer qu'il est naturel qu'il soit interdit. C'est tout le débat qu'on est en train d'avoir ce soir. On a le même sur le glyphosate. Olivier, tout à l'heure, intervenait, et je pense qu'il doit être agriculteur. Les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Et les décès, les maladies liées au glyphosate et à tous ces produits-là sont connus, reconnus. Et donc, on est dans une situation, et ça a été dit à juste titre par Stéphane Aurel, où la chimie et l'agroalimentaire essayent de faire en permanence, de mettre le doute, d'instiller le doute. On l'a vu avec Monsanto, on l'a vu avec d'autres producteurs de ces molécules, essayent de bloquer les avancées scientifiques et de faire en sorte qu'on soit toujours sur la démonstration avérée. La démonstration avérée, ça peut prendre des années et des années. Combien de morts, combien de maladies pendant ce temps-là?
Je vais vous laisser.
Moi, effectivement, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'au niveau européen, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des produits et des molécules qui soient interdites, mais on s'aperçoit ensuite qu'un lobbying au niveau de ce qu'on appelle la comitologie, c'est-à-dire quand les États et les experts doivent entrer dans le détail des définitions, on s'aperçoit que là, les lobbies jouent à fond et essayent de bloquer les avancées et de faire en sorte que les définitions soient les plus larges possibles. Voilà la difficulté que nous avons au quotidien pour pouvoir légiférer de manière durable sur la santé et protéger la santé des citoyens.
Merci Pascal Durand. Docteur Patrick Lévy, je vais vous donner la parole dans une seconde, c'est promis, pour répondre à Pascal Durand. Mais il y a aussi Antoine qui est en ligne et qui souhaite vous interpeller très directement. Vous êtes maraîcher, Antoine, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je suis maraîcher en bio depuis une trentaine d'années. Et en fait, je voudrais demander à Monsieur Lévy comment il peut encore défendre des produits chimiques, alors que surtout ceux qui sont utilisés en agriculture, alors que depuis 50 ans, tous les ans, il y a de nouvelles molécules qui sont sorties sur le marché par les industries chimiques, et régulièrement, au bout de X années, on se rend compte que c'est des produits qui sont toxiques, qu'on peut plus les utiliser. Et ça fait 50 ans qu'on voit ça. Il y a une chute dramatique de la biodiversité. Enfin, toutes les conséquences, on les connaît. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait regarder les choses en face et vraiment remettre en question, je suis désolé, monsieur, et remettre en question la place de la chimie et notamment dans l'agriculture, parce qu'on voit qu'on est vraiment dans une impasse. Et je voudrais savoir quel rôle vous jouez, quoi, à part, monsieur, vendre de la mort, quoi. Voilà.
Merci pour cet appel, Antoine. Docteur Patrick Lévy, médecin conseil de l'Union des industries chimiques. Que souhaitez-vous répondre, Antoine?
Je comprends bien l'inquiétude qui est la vôtre, encore une fois, et vos préoccupations. Nous ne sommes plus dans le même monde. Aujourd'hui, pour mettre sur le marché une substance active phyto ou une substance active biocide, c'est plus de 10 années d'études, de recherches. C'est environ 200 millions d'euros d'études avant la mise sur le marché. Donc on a changé complètement de monde par rapport à cela. Par le passé, effectivement, on pouvait mettre sur le marché, il y a 50 ans ou 20 ans, comme vous l'évoquiez, des substances qui faisaient l'objet d'un nombre relativement réduit d'études. Aujourd'hui, ce sont des études complètes sur la toxicologie, sur l'écotoxicologie, sur l'efficacité des substances, qui garantissent effectivement l'innocuité et l'efficacité également par rapport au traitement que nous souhaitons appliquer. Donc, on a complètement changé par rapport à ça. On a des données extrêmement précises sur toutes ces substances qui sont mises sur le marché. Pour mémoire, il y a quelques années, nous avions environ 1000 substances actives phytosanitaires sur le marché. Avec la mise en place du règlement européen, nous n'avons plus aujourd'hui que 300 substances. Donc, je dirais que toutes les substances qui avaient des profils de danger préoccupants ont été éliminées du marché.
En tout cas, les enjeux sont énormes, hein, Stéphane Aurel. Vous expliquez très bien dans votre livre Intoxication ce qui se passe en coulisses à Bruxelles. Le lobby, les lobbies en général, font tout pour essayer justement de maintenir un certain nombre de produits et d'éviter que la réglementation ne soit trop stricte.
Je voudrais juste préciser quand même quelque chose sur ce que vous venez de dire, Monsieur Lévy. Les tests toxicologiques qui sont présentés aux autorités réglementaires pour la mise sur le marché des substances aujourd'hui ne sont pas exhaustif et complet. Il y a énormément d'effets qui ne sont pas balayés par ces tests, qui sont en fait des tests qui sont juste standards pour que ce soit tous les mêmes, mais il n'y a pas de tests qui explorent les effets des perturbateurs endocriniens qui agissent sur l'axe thyroïdien, par exemple. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de pesticides et de retardateurs de flamme bromés qui sont utilisés, par exemple, dans les fauteuils sur lesquels on est assis, qui sont censés retarder dans la mousse, censés retarder l'incendie qui va nous s'enflammer dans quelques instants, qui sont en fait des molécules qui interagissent avec l'axe thyroïdien. Or, les hormones thyroïdiennes sont essentielles au développement du cerveau pendant la grossesse. Et les études, il y a de plus en plus d'études qui montrent aujourd'hui qu'il y a une augmentation des pathologies liées à des retards de développement du cerveau, l'augmentation de l'autisme, de l'hyperactivité et même des baisses de QI qu'on associe aujourd'hui directement à une exposition à ces substances. Donc les études complètes fournies par l'industrie ne sont en fait ni complètes ni indépendantes.
En tout cas, beaucoup d'inquiétudes du côté des auditeurs qui appellent le standard de France Inter. Cécile, qui est en ligne de Colombes, va nous demander quoi faire, c'est ça Cécile ?
Oui, et puis je voudrais vous donner un petit peu d'avance parce que je suis déjà très très informée et je suis admirative du travail de Stéphane Aurel qui a participé à m'informer. Je suis une consommatrice avertie, donc je consomme différemment. J'informe autour de moi. Je vais pas y passer mes journées parce qu'il y a d'autres choses importantes dans la vie, mais je voudrais savoir, la question est la suivante, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Est-ce que j'envoie un bilan sanguin tous les mois aux députés européens et aux lobbies de la chimie ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? C'est presque une question démocratique, puisque de toute évidence, on est très très nombreux à être informés, on est très nombreux à être inquiets. Malgré tout, on est peut-être plus nombreux que le lobby pharmaceutique, mais de toute évidence, on est bien mieux organisés.
Merci Cécile. Que peut faire le citoyen, Pascal Durand, vous qui êtes à Strasbourg, au Parlement européen ?
Il peut faire beaucoup de choses, on vient de le voir avec le glyphosate, avec une initiative citoyenne qui a été signée par plus d'un million de personnes et donc dans plus de 7 pays européens. Donc ça va obliger la Commission à statuer sur ces questions-là. Les mobilisations citoyennes à travers les associations sont évidemment tout à fait essentielles pour pouvoir faire bouger. Mais là aussi, sur la question que nous avons, Monsieur Lévy dit qu'il y a énormément d'études maintenant qui sont faites. Je voudrais rendre hommage là aujourd'hui à Michel Rivasi, ma collègue, qui a saisi la Cour de justice européenne simplement pour qu'on ait accès aux études que les laboratoires et l'industrie agroalimentaire ont mis en place pour le glyphosate, dont ils refusent de nous communiquer les moindres éléments en dehors des conclusions. Et donc, nous n'avons pas la capacité de vérifier dans quelle mesure ces études sont fiables et surtout ont été réalisées par des experts indépendants. Parce que lorsqu'on s'aperçoit que les experts qui ont travaillé sur telle ou telle étude, finalement, sont directement reliés à l'industrie chimique, vous nous permettrez de douter de leur objectivité. Pas de leurs compétences, mais de leurs objectivités. Donc, ce que l'on peut faire, c'est déjà rendre transparentes les études. Faire en sorte que toutes les études d'autorisation sur le marché soient connues, reconnues et qu'elles aient lieu par des experts totalement indépendants de l'industrie. C'est la moindre des choses. Et après, au niveau des citoyens, il y a aussi, je sais que c'est parfois pas très facile, mais pour les perturbateurs endocriniens, pour les pesticides, le fait d'essayer de manger bio, ça veut dire aussi que le ministère de l'écologie doit veiller à ce qu'on développe une alimentation saine. Il va y avoir les grands états généraux de l'alimentation qui vont avoir lieu. Il faut développer en France une alimentation bio, tout simplement parce qu'elle protège les agriculteurs, elle protège évidemment les femmes enceintes, elle protège les enfants et elle protège plus globalement la santé des citoyennes et des citoyens.
Alors Pascal Durand, puisque vous parlez d'alimentation, on a Magali qui est en ligne de Bordeaux, parce qu'au-delà de ce qu'on mange, il y a dans quoi on mange. Bonsoir Magali.
Oui, bonsoir, je vous remercie de me redonner la parole parce que j'étais intervenue dans votre première émission de janvier sur les perturbateurs endocriniens. La mairie de Bordeaux venait de passer toute la vaisselle en plastique. Et on a monté un collectif, un peu grâce à vous, Cantine sans plastique, qui a fait des petits dans d'autres villes de France. Alors moi, j'ai deux inquiétudes. La première, c'est, on sait maintenant que la nourriture est cuite, puis reconditionnée, puis réchauffée dans des barquettes en plastique. On sait maintenant qu'il y a de nombreuses collectivités qui s'équipent en vaisselle dite légère en plastique. Donc premier point, qu'est-ce que cette réglementation va faire ? Est-ce que ça va pas permettre justement de laisser les maires qui sont responsables de la salubrité et donc de cette dimension sanitaire dans leur commune, équiper et continuer de généraliser le plastique partout. Et deuxième point, inquiétude aussi, là encore, on est dans une région en Gironde où il y a une très très forte exposition des établissements scolaires aux pesticides. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines d'établissements qui sont dans des zones d'épandage et où les enfants sont exposés, y compris pendant les horaires de classe. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
Je suis pas sûre, Magali, qu'on puisse répondre à tout ça parce qu'il est déjà 19h56 et il nous reste à peu près 2 minutes. Donc chacun aura 30 secondes pour vous répondre. Peut-être Stéphane Aurel sur les couverts en plastique, parce que j'ai vu l'autre jour que par exemple Strasbourg renonce complètement dans les cantines. Il y a des initiatives dans certaines villes effectivement pour limiter l'usage des plastiques quand on réchauffe notamment l'alimentation.
Il y a une espèce de mouvement des communes pour utiliser le plastique au moment où même on se rend compte que le plastique est bourré de substances nocives pour la santé, notamment des perturbateurs endocriniens. Mais je pense qu'il faut saluer justement c'est ce genre de choses que les gens peuvent faire, c'est ces mobilisations citoyennes où les citoyens apprennent à manier la loi pour l'expliquer en fait à leurs élus.
Voilà, s'informer et agir. Patrick Lévy, ça vous inquiète, vous, le secteur de la chimie, quand vous entendez...
Il y a plusieurs aspects dans la question.
Tout ça, mais vous avez 30 secondes, malheureusement.
Les matières plastiques qui sont destinées à être au contact avec les denrées alimentaires sont évaluées, y compris la migration donc des substances qui peuvent contaminer les denrées alimentaires. Aujourd'hui, on a des matières plastiques qui sont parfaitement inertes et qui n'entraînent pas d'effet pour la santé. Donc il faut être rassuré par rapport à cela. Après, sur l'utilisation plus générale, il y a des questions plus larges de recyclabilité, d'économie circulaire qui se posent derrière l'utilisation de ces produits.
Pascal Durand, le mot de la fin sera pour vous à Strasbourg. Est-ce que vous souhaitez peut-être répondre à Magali et à tous ces citoyens qui s'interrogent et qui se disent qu'ils peuvent peut-être agir chacun à leur niveau ?
Bien sûr qu'ils peuvent agir, ils ont raison d'être vigilants, il faut être extrêmement vigilant. La question de la défense de l'intérêt général et de l'intérêt public face à certains intérêts privés et certains lobbies est majeure. Donc oui, il faut agir au niveau local. On peut agir dans les territoires, on peut agir dans les villes, on peut développer, je l'ai dit tout à l'heure, essayer de faire en sorte que dans les cantines, dans tous les lieux publics, on veille à mettre en œuvre le principe de précaution que et le président de la République et le ministre de l'écologie se sont engagés à défendre en France et en Europe. Eh bien, il faut véritablement le faire et mettre en œuvre ce principe de précaution. Il en va de la santé de millions de personnes.
Merci beaucoup Pascal Durand à Strasbourg. Merci beaucoup Patrick Lévy d'être venu ici
Merci
ce soir. Merci à Stéphane Aurel. Je rappelle le titre Merci de votre livre, Intoxication. C'est très intéressant parce que ça permet de comprendre aussi comment fonctionne l'Union européenne, Bruxelles, les lobbies, etc. On apprend des tas de choses. C'est donc la fin de ce Téléphone Sonne. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Jérémy Younes, Pierre Caron. À la réalisation, Jérôme Boulet, à la technique, Loïc Frapsos et Michel Bézikian. Merci aussi à nos deux jeunes standardistes de l'émission.